indépendamment de la Bible. Puis ensuite, il me semble qu'il nous faudrait dire quelques mots au moins des principes de l'interprétation biblique, spécialement quand on aborde ceux qui sont à mettre en œuvre, quand on aborde les textes concernant la nature, la place, le ministère de la femme. Après cela, alors, il nous faudrait aborder les textes eux-mêmes. Ils se rangent, à mon avis, sous deux grands chapitres. D'abord, il y a les textes du début de la Genèse et leur interprétation plus loin dans la Bible, c'est-à-dire dans les épîtres de Paul. Pratiquement chaque fois que Paul se réfère au sujet, il le fait en reprenant consciemment la Genèse. Ça fait donc un premier grand ensemble, les textes sans doute principaux, puisqu'ils traitent très spécifiquement de notre sujet. Mais il y a aussi, deuxième grand groupe, toutes les notations que l'on trouve de ci, de là, le spectacle que donnent les hommes de la Bible et les femmes de la Bible dans leur rapport réciproque, ce que l'on voit dans l'Ancien Testament, ce que l'on lit dans les livres de sagesse de l'Ancien Testament en particulier, ce que l'on voit dans les évangiles, l'attitude de Jésus, la place des femmes dans l'Église primitive. Ça forme un ensemble qui est important aussi. Et il me semble que pour notre progrès, il vaudrait mieux que nous commencions par ces données éparses, répandues dans toute la Bible, mais qui forment comme une sorte de toile de fond pour l'étude des textes particuliers de la Genèse et de Paul, et que nous venions ensuite seulement donc à ces textes clés. Nous aurons, me semble-t-il, là, la toile de fond voulue. Donc, notre ordre serait, après les deux éléments d'introduction que sont le résumé des apports scientifiques et peut-être philosophiques, et d'autre part les principes d'interprétation de l'écriture, nous étudierions les données éparses, et de caractère assez général, d'une part, et puis ensuite les textes de la Genèse et leur interprétation par Paul. Et puis nous aboutirions alors à des suggestions, en guise de conclusion au moins, après l'étude, chacun d'ailleurs tirerait les siennes, je suppose, de conclusion, mais je vous proposerai les miennes. Est-ce que ce schéma vous agrée? Donc, non pas pour aujourd'hui seulement, mais pour 3-4 séances peut-être. Apparemment, nul n'objecte, donc nous pouvons aller de l'avant. Je ne sais pas quelle tranche nous ferons aujourd'hui. Ma femme m'a bien recommandé, je vais lui obéir, je vais essayer en tout cas de le faire, de laisser suffisamment de temps pour les entretiens. Souvent nos heures se sont écourtées. Avant de faire ce petit résumé que j'ai promis, je peux donner quelques indications bibliographiques. Je vous signale les livres qui m'ont été les plus utiles, livres ou articles. En ce qui concerne les sciences humaines et leur exploitation philosophique, je considère que deux livres surtout sont très précieux. Un gros livre, relativement indigeste, mais irremplaçable quand même, et rédigé sous la direction d'Evelyne Sullerot, et intitulé « Le fait féminin ». C'est un gros livre résultat d'un colloque réunissant à l'abbaye de Royaumont un nombre important de célébrités mondiales, spécialistes de la physiologie, de la psychologie, de la sociologie et d'autres disciplines encore, hommes ou femmes d'ailleurs. Et les contributions elles-mêmes sont parfois d'une technicité un peu rebutante, mais il y a des conclusions qui sont tirées par Evelyne Sullerot, des mises au point qui, elles, se lisent très très bien. Au fond, on pourrait se contenter, si l'on voulait avoir le suc de ce livre, des seules interventions d'Evelyne Sullerot, des textes de liaison entre les articles de type scientifique, qui recense toutes les expériences qui ont été faites, les mesures, etc., ce qu'on oublie après l'avoir lu. Évidemment, la valeur scientifique du livre requiert que les démonstrations complètes soient aussi données, mais quelqu'un qui veut lire les conclusions a l'essentiel de ce qu'il retiendra, au fond, pour lui-même. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il travaille selon la loi du minimum, disons. Ce qu'il retient, c'est le minimum de ce qu'on peut retenir avec la science la plus exigeante, les préoccupations, les plus mathématiques des savants qui ne veulent rien admettre qui ne soit vérifié expérimentalement avec mesures, statistiques, etc. Je crois qu'il faut reconnaître comme caractéristique de la féminité beaucoup plus que ce que les savants réunis à Royaumont ont retenu. Mais ils ont retenu un minimum qui est indiscutable. Là, des expériences répétées, vérifiables, etc., prouvent qu'il y a au moins ça. Voilà ce que j'appelle la règle du minimum. Ce sont des savants qui sont presque tous de tendance positiviste, c'est-à-dire avec une philosophie très courte, qui ne se fie pas à aucune révélation, mais même à aucune intuition, même à aucun exercice d'imagination. Alors, je crois qu'ils laissent, à cause de cette myopie de leur philosophie générale, beaucoup de dimensions hors d'atteinte pour eux. Mais, en un sens, c'est avantageux dans le débat. Ce qu'ils retiennent, ça alors, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas être mis en doute. Et malgré tout, il y a déjà des données substantielles. Evelyne Sullereau, d'ailleurs, reconnaît à la fin du livre que le livre ne considère la réalité féminine que d'un côté. Et elle dit qu'il faudrait écrire un autre livre qui s'intitulerait « Le sujet féminin » et qui concernerait d'autres dimensions. Donc elle le reconnaît, ce que je suggère maintenant, qu'il s'agit simplement d'un minimum. Mais tel qu'il est, le livre est intéressant. Il a été publié en 78, il est donc assez récent. Le second livre que je recommande beaucoup, lui, est d'un titre différent. C'est un livre traduit du hollandais et d'un homme qui est vraiment bien connu, Buitendijk, c'est comme ça qu'il faut prononcer son nom, B-U-Y-T-E-N-D-I-J-K, B-U-Y-T-E-N-D-I-J-K, qui aborde la question avec des méthodes assez rigoureuses, mais toutes différentes de celles des savants du fait féminin. C'est un adepte de ce qu'on appelle la méthode phénoménologique, une méthode qui a été maniée par un certain nombre de philosophes. Et il l'utilise avec brio et, je crois, avec un assez bon équilibre, cette méthode. Elle vise, dans ses prétentions, à laisser le phénomène se dévoiler lui-même. La méthode phénoménologique est une méthode d'auto-purification, pourrait-on dire, du regard. Ceux qui l'adoptent disent « Nous ne voulons pas nous laisser influencer par des idées toutes faites au départ, par des systèmes, par des dogmes, par quoi que ce soit. Nous voulons simplement, avec un regard rendu vierge en quelque sorte, que le phénomène apparaisse à nos yeux. Et nous décrivons de façon rigoureuse. Alors je crois qu'en réalité, ils se leurrent en s'imaginant qu'ils réussissent à retrouver une pure virginité du regard. Je crois qu'il y a toujours des présuppositions qui se cachent. Mais il reste que leur effort les rend peut-être un peu moins partiaux que d'autres observateurs. Et qu'en cultivant une attitude d'accueil de ce qui se laisse voir, ils peuvent dire des choses qui sont quand même très intéressantes, ces adeptes de la phénoménologie. Et alors Buitendijk a fait cela pour la féminité, dans un livre fameux qui a été traduit dans presque toutes les langues. C'est un livre qui complète, à mon avis, fort bien le fait féminin.
Le titre, c'est la féminité.
Alors c'est la femme, ses modes d'être, de paraître, d'exister. La femme, ses modes d'être, de paraître, d'exister. Il a paru dans la collection Foi vivante. c'est un peu le livre de poche, enfin, c'est un des livres de poche catholiques. L'auteur ne se présente pas comme chrétien à aucun endroit, je ne sais pas s'il l'est ou non, mais en tout cas sa méthode ne fait à aucun moment référence à la foi. Mais, alors, pour le fait féminin, c'est chez Fayard, que l'ouvrage a paru en 78, et pour la femme, ses modes d'être, de paraître, d'exister, de Buitendijk, c'est chez Desclées de Brouwer, paru en 67. Ce Buitendijk a été professeur à l'université d'Amsterdam, puis Utrecht, membre de l'Académie royale néerlandaise, enfin c'est un grand bonhomme, qui s'est rendu assez fameux par ce travail. Alors, en plus de ces deux ouvrages, que je considère pour ma part comme les plus précieux, parce qu'ils se complètent très bien, l'un positiviste, l'autre avec une autre attitude, tout à fait, je pense qu'on peut signaler quand même le grand livre de Simone de Beauvoir, qui, tout en étant lui très orienté idéologiquement, là, il y a une sorte de dogme très rigide, qui détermine la manière de traiter toutes les données, le dogme de l'existentialisme de Sartre, n'est-ce pas ? Et quand même un livre important. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, chez Gallimard. Deux volumes, c'est un livre qui avait beaucoup de bruit à l'époque. Je crois que Simone de Beauvoir a raconté plus tard qu'elle l'a écrit très vite, en fait. Elle a amassé des tas de matériaux, mais ce n'est pas toujours présenté dans le meilleur ordre et ce n'est pas toujours très mûrement réfléchi, mais c'est un livre qui a fait beaucoup pour nourrir le féminisme récent, bien que le féminisme récent soit original à bien des égards par rapport à celui de Simone de Beauvoir. Et puis, un livre qui répond à ce livre-là, Le malentendu du deuxième sexe, par Suzanne Lillard. Lillard, comme ça se prononce, L-I-L-A-R. C'est la mère de Françoise Malé-Joris, Suzanne Lillard. Une femme de tête très très remarquable, qui a répondu à Simone de Beauvoir. Suzanne Lillard. Le malentendu du deuxième sexe, aux presses universitaires de France. Le livre est paru en 70. Elle a écrit aussi un autre livre sur le couple, Suzanne Lillard, mais ce livre-là répond directement à Simone de Beauvoir. Alors, il y a bien sûr des livres très nombreux de la vague féministe récente, relativement récente, des années 70. Je n'ai apporté aucun avec moi. Je n'ai pas lu de très loin toute la série. Il y en a un très très grand nombre. Les auteurs principaux seraient Benoît Tegrou, Marie Cardinal. J'ai lu un livre qui est à mon avis assez difficile à lire, une agrégée de philo, Marie-Odile Métral, qui appartient à ce groupe. Il y a aussi, mais là je n'ai rien lu d'elle, une femme qui écrit des articles assez souvent dans Le Monde, Hélène Cixous. C-I-X-O-U-S, et il y en a d'autres encore que peut-être vous connaissez. Si quelqu'un a lu un livre particulièrement important à ses yeux, de quelqu'un qui se trouve dans ce groupe, donc représentant le féminisme des années 70, il pourrait peut-être nous le signaler. Moi, je n'en vois pas que je placerai au-dessus de tous les autres comme particulièrement représentatif et instructif, mais si quelqu'un a lu un tel livre. Bon. En ce qui concerne alors les points de vue chrétiens, en ce qui concerne la Bible et le sujet que nous voulons donc plus spécialement étudier, c'est bien sûr tout spécialement Ictus 85 que je vous recommande. Bien sûr, ce n'est pas très, très développé, mais vous avez aussi quelques indications bibliographiques, entre autres le livre d'Elisabeth Elliott, qui est traduit en français et dont un extrait a été publié dans ce numéro spécial d'Ictus. Elisabeth Elliott, donc, est la veuve de l'un des missionnaires martyrs de l'Amazonie, massacrée par les Oka, et elle s'est remariée, elle a écrit un livre pour sa fille, qui a été traduit en français, aux éditions Trobisch. Et il y a d'autres références. Alors ce numéro d'Ictus, je crois, peut vous être utile. J'ai ici un numéro d'une revue catholique, mais un numéro déjà assez ancien, alors il ne se trouve que d'occasion, moi je l'ai eu d'occasion, de Lumière et Vie, intitulé Conception chrétienne de la femme, contient quelques articles intéressants. Tous ne sont pas, à mes yeux, très intéressants, mais il y en a un ou deux. Un article en particulier intitulé Anthropologie des sexes, traduit de l'allemand, et un article sur les femmes prêtres en Suède. Et ces deux articles-là, je les ai trouvés très, très riches d'informations, précis, intéressants. Il y a le livre de ma grand-mère, que vous connaissez sans doute, donc le livre de Madeleine Blocher-Sayens, Libérée par Christ pour son plein service, qui est particulièrement riche en données historiques. Ma grand-mère avait la passion de l'histoire, et donc elle passe en revue toutes les servitudes dans les différentes cultures, aux différents âges, dont la femme a souffert. Puis alors il y a des articles autrement comme livres. Je ne vois pas grand chose à vous signaler en français. Il y a eu des articles dans la Revue Réformée aussi, d'une tendance alors très antiféministe. En particulier un article de M. Roger Barillier, B-A-R-I-L-I-E-R, qui est un spécialiste, problème de conjugaux et de sexualité. Il a écrit sur ces sujets des livres, mais qui avait parlé sur le sujet du ministère féminin dans un article de la Revue Réformée. Malheureusement, je n'ai pas, je crois, la référence précise avec moi, mais je pourrais la retrouver, sans trop de mal, si vous le souhaitez. Voilà. Y a-t-il, de ma part, un oubli que je pourrais réparer? Oui, quand même, je peux quand même dire ça aussi. Il y a un petit livre de Francine Dumas, intitulé « L'autre semblable », c'est un petit livre, Francine Dumas est la femme du professeur André Dumas de la fac de Paris, fac de théologie protestante de Paris, et elle est assez connue. Il y a aussi un ouvrage plus ancien de Charlotte von Kirschbaum, qui était traduit en français, c'était la secrétaire de Karl Barth, et plus que sa secrétaire, semble-t-il, là il y a eu un point... une tâche morale sur la vie de Karl Barth. Enfin, le livre est un livre quand même intéressant de cette Charlotte von Kirschbaum qui concerne la place de la femme. Je ne me rappelle plus le titre tout à fait exact. Bon. Personne n'a d'addition bibliographique à suggérer. Alors nous passons au rappel des données des sciences. Et peut-être en resterons-nous là aujourd'hui, puisque nous approchons déjà de midi. Mais enfin, si vous voulez que nous allions plus loin, nous pourrons peut-être le faire aussi. Je rappelle que le sexe est d'abord déterminé génétiquement, que c'est même l'examen des chromosomes qui seul permet d'opérer une distinction parfaitement nette avec discontinuité pure entre le masculin et le féminin. Comme nous allons le voir, si l'on considère les autres éléments de différenciation, c'est toujours du plus et du moins. C'est toujours question de degré, mais au plan génétique, dans la formule qui est caractéristique de notre espèce parmi toutes les espèces animales et de chaque individu, tous ces caractères y sont inscrits en quelque sorte, dans cette formule, alors il y a une différence parfaitement nette entre le masculin et le féminin. La femme est caractérisée par la paire de chromosomes XX, deux chromosomes identiques de type X, et l'homme est caractérisé par une paire XY. Donc là, c'est net, c'est très tranché, différence indiscutable. Comment se détermine le sexe au moment de la conception? Vous savez qu'au moment de la conception, vous avez un jeu de chromosomes qui correspond à la moitié du nombre total des chromosomes qui vient du père et un jeu de chromosomes qui vient de la mère qui s'unissent pour donner les 46 chromosomes de l'être humain complet. Alors c'est selon le hasard, un hasard bien sûr que toujours domine notre Seigneur, il n'y a pas de hasard au sens absolu, mais disons du point de vue du regard scientifique, c'est le hasard. L'homme étant XY, la femme apportant XX, il y a la moitié qui va venir de la femme, la moitié qui va venir de l'homme. De l'homme peut venir un X ou un Y, puisque lui a pour formule XY. Si c'est un X qui s'associe à la contribution génétique de la mère, alors ça fera XX et donc ce sera une fille. Si c'est un Y qui s'associe à la contribution X que la femme apporte, ce sera XY, et donc ce sera un garçon. C'est aussi simple que ça. C'est ainsi que se détermine le sexe à la conception. Alors, il peut y arriver parfois que la suite se déroule d'une manière perturbée, qu'il y ait de mauvais aiguillages, alors que normalement, cette formule génétique commande une évolution, les hormones dosant, etc. Il peut arriver qu'il y ait un mauvais aiguillage et qu'il y ait un sexe apparent qui ne soit pas le sexe véritable. Ça arrive très très rarement, mais ça arrive quand même. Et c'est ainsi qu'il peut y avoir changement de sexe, comme on dit. Les journaux font parfois de gros titres avec ce genre d'affaires. Lorsqu'on détermine que un individu qui paraissait de sexe mâle était en fait un XX. Et de telle sorte qu'il a fallu lui rendre sa sexualité réelle, génétique. Alors comment se détermine la suite? Eh bien, en fonction de cette différence génétique, il va y avoir une différenciation progressive. Mais ce sera toujours là, de l'ordre du plus et du moins, par essentiellement le jeu des hormones. Les caractères de l'embryon vont se différencier très très progressivement, et on pourra dire à cet égard que ce sera toujours du plus et du moins. Même les caractères sexuels primaires, ceux qui sont dénommés sexe au sens étroit du terme, même en anatomie, représente le produit d'une évolution d'un matériel indifférencié. En fait, même les organes masculins et féminins sont à l'origine, dans l'évolution du fœtus, sont à l'origine la même chose, différenciée sous des actions hormonales essentiellement. Je pense que c'est Mme Le Guenet qui pourra nous instruire plus précisément si je dis des bêtises, mais je crois rendre compte à peu près en langage d'amateur de ce qui est maintenant acquis au plan scientifique. Donc dans ce sens, il n'y a pas de différenciation radicale entre l'homme et la femme. Ce qui apparaît comme une différence tout à fait nette est le produit d'une évolution divergente à partir de mêmes éléments dans l'organisme indifférencié et tout petit. Ce qui a introduit l'idée de bisexualité dans la pensée de plusieurs, en particulier Suzanne Lillard est très, très enthousiasmée par cette pensée. Au fond, la question de la différenciation des sexes, c'est une question interne à chaque individu. il a en lui comme une potentialité de l'autre sexe. C'est vrai quant au développement de ses caractères sexuels, c'est pas vrai génétiquement, mais c'est vrai dans la manière dont se développe ensuite l'organisme humain. Alors, il y a des différenciations physiques qui sont évidentes, qui concernent les caractères sexuels primaires, et puis aussi un certain nombre de caractères sexuels secondaires, question de taille, de poids, de hauteur de la voix, une fois que la puberté est intervenue, etc. Nous connaissons tous cette différenciation-là. Il y a, du fait de cette différenciation, une différenciation des rôles dans la reproduction, et en particulier la maternité du côté de la femme, choses qui sont bien connues. Mais la grande question qui surgit, c'est celle des différenciations de type psychologique, intellectuel, qui ont été associées de manière traditionnelle aux autres différenciations évidentes, pratiquement dans toutes les cultures jusqu'à nos jours. Il a été admis que de même que la femme a une matrice et portera les enfants, de même aussi la femme est plus intuitive, la femme est plus fantasque, la femme, etc. Ce genre de stéréotypes dans un très très grand nombre de cultures. Et alors le grand débat de ces dernières années ou décennies concerne ces caractères associés par les stéréotypes culturels aux caractères indéniables qui différencient hommes et femmes. Le combat des féministes, et déjà de Simone de Beauvoir, mais de beaucoup de féministes modernes aussi, a été un combat d'élimination, pourrait-on dire, de ces caractères psychologiques, intellectuels, caractériels, etc., d'élimination de ce qu'on pourrait appeler la nature, pour ne les considérer que comme des traits produits par la culture. En gros, je simplifie un peu mon langage, les féministes ont dit, vous prétendez que la femme est comme ça, plus intuitive, plus fantasque, etc., mais ça, c'est uniquement le produit de vos sociétés. Vous lui avez appris à être comme ça depuis les années de sa petite enfance. C'est un pur conditionnement culturel. Ce n'est pas sa nature. C'est surimposé à sa nature, artificiellement. Voilà ce qui a été la position dominante du féminisme depuis un certain nombre d'années, et c'est particulièrement ce problème-là que le livre Le Fait Féminin avait pour mission d'étudier, et sur lequel il donne des renseignements qui, je crois, sont fort intéressants. La vague me semble refluer, au moins chez les savants, dans les cercles scientifiques, de cette foi que tout, au fond, dérive de pression sociale, dans cette différenciation psychologique, etc. La vague de cette foi semble refluer, et en particulier Evelyne Sullerot, qui a été à la pointe du combat féministe, qui a dit, se rétracte de manière explicite dans ce livre, en disant, j'ai commencé par prêcher que tout était le produit du conditionnement culturel, mais je me suis heurté à trop de faits qui sont là manifestement indépendants des conditionnements culturels, même quand des conditionnements culturels opposés par idéologie, par exemple marxiste, ont essayé de changer la direction indiquée par ces stéréotypes, il y a eu une résistance, et finalement on voit bien que la nature s'est vengée et a repris son affirmation dans bien des directions.
C'est dans Le Fait Féminin qu'elle...
Alors, exactement, oui, je peux vous citer peut-être expressément ce qu'elle dit. Elle dit, page 310, que pendant des siècles, la nature féminine a été un système d'interprétation commode. Aujourd'hui, c'est plutôt la société qui joue ce rôle de fourre-tout et d'accusé permanent. Et elle ajoute, par exemple, les idées du néo-progressisme environnementaliste, privilégiant absolument l'influence de la société et l'éducation reçue, sont tout aussi biaisantes que les autres. Ça, par exemple, c'est page 310. Je cherche encore l'autre... L'autre citation où elle dit carrément qu'elle-même a changé. Je suis sûr que je l'ai noté dans mes notes de ce grand livre. Je vais un peu trop vite. Citation que je viens de donner énonce le résultat obtenu, mais ne dit pas carrément qu'elle se rétracte. Mais là, il y a une citation que je peux vous donner. J'aurais pas noté cette citation, mais je suis à peu près persuadé de l'avoir fait. Il me semble que quand j'ai revu mes notes hier soir, je l'ai aussi revue. Bon, eh bien, je ne retrouve pas maintenant. Alors, je passe aux données que l'on trouve aussi dans ce livre.
Il y en a une autre qui l'a dit d'une manière littérataire, peut-être, sinon je veux rentrer à la maison. C'est pas de
aussi. Oui, oui, mais alors il s'agit moins de la nature de la femme et de la caractéristique naturelle de ces traits de différenciation que, disons, de l'accomplissement qu'on peut trouver soit dans le foyer, soit dans le travail au dehors. Mais c'est un livre évidemment intéressant que d'ailleurs commente Mademoiselle de Védrine dans le numéro d'Ictus que j'ai signalé. Alors, ce qui semble prouver que la différenciation sexuelle porte aussi sur les traits de psychologie et de disposition pour les sciences et les tâches diverses, c'est qu'on a pu démontrer que les hormones spécifiques du garçon ou de la fille imprègnent la région de l'hypothalamus pendant les quelques jours qui suivent la naissance, même peut-être déjà un peu avant, mais ça se passe dans une période extrêmement brève, et cela d'une manière irréversible, avec des résultats très importants pour le cerveau lui-même. Le cerveau, c'est maintenant chose démontrée, d'après des études donc, qui se trouvent présenté dans le fait féminin, le cerveau est sexualisé. Avec d'ailleurs un problème que je signale en marge, pour moi c'est un assez gros problème. Nous avions, je crois, parlé il y a quelques années dans ce groupe des problèmes de l'homosexualité. Or, d'après un de ces articles, il semble que, au moins chez certains homosexuels, il y a une différenciation féminine de l'hypothalamus, ce qui suggérerait un certain conditionnement hormonal aussi. à l'origine de la déviation sexuelle dans cette affaire. Enfin, ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est cette différenciation-là qui est maintenant tout à fait prouvée et qui implique que la différenciation ne concernera pas simplement le corps. Si jamais on pouvait vraiment séparer le corps du reste de la personne. Quel effet est-il produit par cette imprégnation hormonale? En gros, le développement des lobes du cerveau est différent. Et c'est une chose qui est maintenant bien prouvée, semble-t-il, c'est qu'il y a spécialisation des hémisphères. L'hémisphère droit correspond aux aptitudes linguistiques, usage du langage, et l'hémisphère droit aux aptitudes spatiales. Non, excusez-moi. Alors, c'est à gauche pour les aptitudes linguistiques, c'est à droite pour les aptitudes spatiales. Or, il est certain que l'hémisphère droit est plus développé chez le garçon. C'est ce qui, par exemple, explique ce qui était extrêmement intéressant. C'est que les femmes, dans la chimie, perçoivent une moyenne de salaire supérieure à celle des hommes. Il y a de très nombreuses femmes qui sont à l'aise comme ingénieurs chimistes. Et que par contre, si on passe à la mécanique, alors là, l'écart est énorme en l'autre sens. Mais pour l'industrie chimique, les femmes ont une moyenne salariale supérieure. Ça, c'est quand même extrêmement frappant. C'est un des faits qui est cité par Evelyne Sullerot. De manière vraiment très régulière, statistiquement tout à fait vérifiable, les aptitudes qui impliquent une certaine notion de l'espace, construction mentale selon l'espace, et par conséquent la géométrie, la mécanique, etc., semblent beaucoup plus accessibles aux garçons. Et presque spontanément, on observe cette différenciation. Alors que l'usage du langage est plus facile au sujet du sexe féminin, les aptitudes de type spatial, comme ils les appellent les spécialistes, sont nettement plus masculines. Alors cela vient non seulement... Oui. Oui. Il semble que les aptitudes se localisent dans le cerveau. Donc, à droite, tu as les aptitudes de type spatial, c'est-à-dire l'aptitude à s'orienter dans l'espace, à projeter mentalement, à faire des opérations de permutation. Les aptitudes qui sont à mettre en œuvre lorsque on travaille dans la mécanique. Tout ce qui peut s'apparenter à cela, on fait de la géométrie, etc.
Ça, c'est droit.
Alors ça, c'est l'hémisphère droit, oui, c'est l'hémisphère droit. Alors que l'usage du langage, lui, se situe à gauche.
C'est très net dans les écoles primaires.
Ouais.
En général, les garçons sont plus doués en maths qu'en français. Et
l'inverse, les filles sont... Mais si on raffine, on s'aperçoit que ce n'est pas les maths tout à fait en général, mais c'est spécialement la géométrie, parce que ce sont les aptitudes spatiales.
Non, mais attendez, c'est là que je ne suis plus, ça j'avais suivi. C'est là que je ne suis plus, c'est qu'il y a une différence du développement des lobes chez l'homme et chez la femme.
Oui, c'est ça. Oui.
Chez l'homme, c'est le lobe droit qui est plus développé.
Oui.
Et chez la femme, c'est le lobe gauche.
Alors, c'est juste un tout petit peu plus compliqué que ça, dans le sens que d'après les données. C'est plutôt que la spécialisation est plus grande chez l'homme, chez le garçon puis chez l'homme. Donc, c'est plutôt que chez la femme, les deux hémisphères sont à peu près aussi développés l'un que l'autre. Ils ne se différencient pas beaucoup, la spécialisation ne s'accentue pas. Alors que chez le garçon, chez l'homme, l'hémisphère droit se spécialise davantage, ce qui est au détriment du gauche.
En bonne féministe,
la femme s'équilibre. C'est ça, oui. Mais je crois que ce sera sur d'autres plans aussi. Je vais en reparler, peut-être pas, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps, enfin, sur d'autres points aussi, ce sera une des clés de la différenciation, à savoir que l'homme est toujours plus extrémiste, en bien, en mal, en force, en faiblesse, et que la femme est plus près des équilibres. Nous verrons, c'est un des points qui, pour la sociologie, est sans doute des plus importants dans cette affaire. Mais pour l'instant, je parle des caractéristiques donc, qui paraissent innées. Celles-là, ça semble maintenant tout à fait bien acquis. Et c'est significatif. Ah oui, dans les premiers jours, c'est comme ils disent, néonatal.
Même avant la naissance.
Et même avant la naissance, mais il semble qu'il y ait quelques jours très, 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 très précis qui sont décisifs. Après ça, c'est fini. On peut injecter des hormones, etc. Ça n'affectera plus l'hypothalamus, la région, etc.
Non, alors c'est quand même grave aussi, parce que alors, si dans les premiers jours, puisqu'il est question d'injecter, on injectait des hormones pour qu'ils deviennent...
Ah oui, parce que oui, oui. Ah oui, on pourrait détruire...
On pourrait nous mettre plus de ceci ou plus
c'est
de
ceci. C'est à l'étude, il y a un livre très intéressant qui a été écrit, qui a été écrit sous l'homme remodelé, où il y a toutes sortes de tricotages, et ça, c'en est un des mémoires. Est-ce que le contexte local, familial, peut intervenir dans cette...
Peut-être, il se peut fort bien que les décharges hormonales qui doivent jouer à ce moment-là puissent être perturbées lorsque le contexte familial et que sais-je, climatique ou quoi, on sait très peu là de ce qui déclenche et il y a parfois des ratés.
Donc, et alors, il y a aussi une naissance difficile, comme on dit. Est-ce que ça peut intervenir
sur ce point précis, je n'en sais rien, mais peut-être. En tout cas, ce n'est pas, me semble-t-il, exclu d'avance. Mais alors, j'ai retrouvé la citation que je voulais vous donner l'autre fois, les pages 281. Donc, Evinsulrod, il y a 10 ans, je croyais que l'orientation professionnelle était déterminée par le conditionnement social. Ça, c'est mon résumé de ces termes. Et puis, je cite maintenant, entre guillemets, « Toutefois, ma foi environnementaliste a été questionnée par des faits résistants. » Voilà la parole de rétractation que je cherchais en vain tout à l'heure et que j'ai retrouvée. Et alors, réduire l'intensité des stimulations. Par contraste, le style typiquement masculin se caractérise par une médiocre sensibilité aux signaux sociaux et non sociaux les plus subtils, une capacité de distraction moindre, une attitude perceptive restructuratrice, l'inhibition des réponses aux stimuli émotionnels internes et une tendance à vouloir multiplier les expériences de stimulation forte. Voilà, vous avez un exemple de ce langage des savants qui étaient réunis, mais vous avez là, dans ce langage savant positiviste, des données qui finalement rejoignent quelque peu les stéréotypes. Ce que j'évoquais tout à l'heure, au fond, il s'y trouve dans ces différenciations-là qui semblent avoir été tout à fait précisément mesurées. Alors je peux signaler à ce propos que les stéréotypes forcément amplifient, même s'ils ne créent pas. C'est une loi qui vaut de toute façon aussi pour les classes sociales, et non pas seulement pour la différenciation des sexes. Mais prenez au départ une petite différenciation dans l'ordre de la nature. Il est, je dirais, sociologiquement fatal que cette petite différenciation soit consolidée, parce que chaque groupe social cherche à définir son identité et à la protéger contre le mélange des autres groupes sociaux. Donc, la petite chose qui différencie va prendre plus d'importance que les caractères qui sont communs, justement parce que cette petite chose qui différencie est la clé de l'identité. C'est par cela que je me définis. Et du coup, alors, étant valorisé de cette manière, cette différenciation va s'accuser elle-même. Tout le poids de l'éducation, tout le poids de la coutume, etc., va aller dans le même sens. Et les stéréotypes font partie de cette pression sociale. Donc il est tout à fait vrai de dire les stéréotypes en rajoutent de beaucoup. Les féministes ont raison à cet égard. La femme n'est pas tellement différente. Elle n'est pas à ce point marquée par des traits de caractère, etc. Mais il est inéluctable dans le jeu social que s'il y a une petite tendance dans ce sens, cette tendance se trouve accentuée dans l'image qu'on va se créer et qui va à son tour modeler les réactions individuelles. Je crois que cette idée-là doit être bien retenue pour que nous comprenions la situation. Alors, en face des stéréotypes, d'ailleurs, on peut se poser la question, sont-ils bons, sont-ils mauvais? La réaction féministe type, dans notre siècle, je ne parle pas des cercles chrétiens, c'est de dire ces stéréotypes sont des chaînes, sont des carcans. Tous les stéréotypes, envoyons-les balader pour être libres. Et si notre nature n'est pas à ce point orientée de ce côté, eh bien, le stéréotype ne peut rien nous imposer. Je pense qu'on peut aussi se demander s'il n'y a pas une valeur positive des stéréotypes. Si dans la quête d'identité, qui est un problème dramatique pour beaucoup, en particulier au temps de l'adolescence, ce n'est pas une aide que d'avoir des stéréotypes. Bon, mais vous voyez, c'est à discuter, ça. C'est une question intéressante à observer. Alors, le deuxième aspect de ces données préalables concernerait la sociologie plus précisément. J'ai parlé surtout de psychologie et de physiologie précédemment. Et en ce qui concerne la sociologie, on est revenu, semble-t-il, et de nouveau je cite le fait féminin à ce propos, on est revenu de l'idée qu'il y ait eu certaines sociétés matriarcales où la femme ait exercé le pouvoir. Même une sociologue féministe comme Margaret Mead, je suppose qu'on prononce Mead, M-E-A-D, très fameuse, l'a reconnue, j'ai une citation d'elle qui date de 73, a reconnu qu'il n'y a finalement eu aucune société où ce n'est pas été l'homme qui ait exercé l'autorité. Si l'on a confondu les choses, si certains pendant un temps ont plaidé qu'il y avait eu matriarcat dans certaines sociétés, c'est parce qu'on a confondu le régime de la succession des biens, de l'héritage, et puis le régime du pouvoir social. Il y a certaines sociétés qui sont matrilinéaires, où l'appartenance familiale est définie par la mère, et l'héritage passe par cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on a cru trop vite, matriarcat, pouvoir social de la mère. Il y a un livre qui est apparu en anglais sous le titre « L'inévitabilité du patriarcat ». Il semble bien que jusqu'à notre société récente, jusqu'au XXe siècle, pratiquement, il n'y a eu aucune société humaine sans que les hommes aient l'essentiel, disons, du pouvoir. Ça ne veut pas dire absence totale de la participation au pouvoir des femmes, mais c'est la règle, indubitablement. Et alors, parmi les données autres que celles de la simple psychologie que j'ai évoquées pour expliquer cela, outre la simple donnée de la force physique dans l'effort momentané au moins, plus grande de l'homme, il y a, me semble-t-il, un fait que Kevin Sullivan met bien en valeur qui est extrêmement intéressant. C'est la loi de distribution. Avec les tests qu'on emploie, Kevin Sullivan dit d'ailleurs qu'on retire de la circulation les tests qui font apparaître trop de différences entre garçons et filles. Chose que le public ignore souvent. Avec les tests donc, que l'on retient et qui ne font pas apparaître de différences significatives, tests d'intelligence en particulier, filles et garçons obtiennent en moyenne les mêmes résultats dans toutes les populations. Mais la distribution des quotients intellectuels révèle toujours la même différence entre filles et garçons, formant une courbe de Gauss assez resserrée pour les filles, autour de la moyenne, et ceux des garçons étant des résultats plus dispersés, avec davantage de résultats très faibles et davantage de résultats très élevés. Vous avez l'échelle. Pour les filles, tout se tasse en quelque sorte autour de la moyenne. Pour les garçons, vous avez bien sûr aussi une majorité de cas autour de la moyenne, mais vous avez toujours plus de quotient intellectuel très élevé et plus de quotient intellectuel très bas. Ça correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure, le caractère féminin plus proche des équilibres et du côté masculin se portant vers les extrêmes. Et ça se retrouve aussi d'ailleurs professionnellement. Les métiers les plus durs, mineurs, je cite Evin Soudreau, marin-pêcheur, ouvrier de fonderie, ainsi que les métiers les plus humbles et les moins engageants, éboueurs, égoutiers, etc., sont partout remplis par des hommes. Les hommes occupent un beaucoup plus large spectre d'activités, des plus prestigieuses aux moins enviables. Toujours la distribution différentielle. Alors ça me paraît extrêmement intéressant si nous pensons en termes de sociologie. Je dis qu'avec ce simple fait, Les moyennes sont semblables. Hein. Et avec ce simple fait de la distribution différentielle, il est inéluctable qu'on aboutisse au patriarcat. Parce que ce sont évidemment les quelques individus les plus doués qui vont parvenir au pouvoir. Si, parmi les individus les plus doués, il y a un pourcentage nettement plus élevé d'hommes, alors il est fatal que les sociétés soient gouvernées par des hommes. Pour la lutte de tous les individus vers le pouvoir, pour cette lutte, les équilibres statistiques, le fait qu'il y ait des idiots pour compenser les génies, si vous voulez, ça ne compte pas. Voilà, ils sont mis en quelque sorte comme hors du combat, et par conséquent, cette distribution différentielle va impliquer presque inéluctablement que les hommes prennent le pouvoir, et pour le consolider, toujours l'action de consolidation des différences naturelles, et pour consolider leur pouvoir, ils vont en plus, ayant le pouvoir, dire « seuls les hommes peuvent avoir le pouvoir ». Ils vont en faire une règle sociale qui va confirmer ce qui, dans cette distribution différentielle, leur donne un accès plus rapide au pouvoir. En plus, là-dessus vont se greffer les problèmes de la maternité, le fait que la maternité est une fonction sociale irremplaçable, que toute société va devoir favoriser, mais qui va handicaper les individus qui en sont occupés, les mères, dans la course au pouvoir, fatalement. Donc, il est inéluctable, avec ces données de base, que dans les sociétés humaines, ce soit le patriarcat qui l'ait toujours emporté. Et c'est seulement les sociétés modernes, avec la redistribution que la technologie avancée permet, le fait que la maternité cesse d'avoir le caractère que nous avons dit, qui peuvent modifier quelque peu cette situation-là. Voilà quelques données de base qui me paraissent bien assurées. Alors je crois qu'il faudrait ajouter des choses que Buitendijk met en relief et qui sont laissées de côté de l'enquête du fait féminin. Je pense qu'il y a un retentissement inéluctable dans la psychologie des rôles différents dans la sexualité en particulier. Nous savons tous à quel point la sexualité modèle toute notre conduite jour après jour. Le fait que les rôles soient nettement différenciés dans le rapport proprement sexuel retentit inéluctablement sur la psychologie de tous les jours. On ne peut pas cesser radicalement d'y penser, même dans des rapports qui n'ont pas un caractère sexuel du tout. Fatalement, il y aura un retentissement. Cela, le fait féminin n'en parle pas. Buitendijk, lui, en parle davantage. Et ça, c'est encore un autre facteur. Mais tous ces facteurs semblent aller dans le même sens. Voilà. Alors, je n'ai pas fini ce que je veux dire, mais aujourd'hui, il faut que j'arrête. Ce que je veux dire des différenciations que les savants, les philosophes peuvent percevoir, je voudrais encore indiquer, étant donné ces faits, quels sont les quatre modèles intellectuels qui sont en compétition sur la notion de féminité aujourd'hui. Ça nous servira un peu de point de repère pour essayer de voir où la Bible se situe. Je crois personnellement, je dis d'avance, qu'elle n'adhérera à aucun des quatre systèmes, à aucune des quatre vues qui, dans notre monde, se disputent. Mais je crois qu'il serait intéressant de formuler cela avant d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, je m'arrête de parler. Je pense que nous pouvons prendre quand même 5 minutes encore pour le dialogue sur ce qui a été dit.
Dire dément totalement la théorie selon laquelle c'est la force brutale de l'homme qui a fait le patriarcat.
Mmh. Oui, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui. Dans la plupart des sociétés, la force brutale n'assure pas le pouvoir. Ça a peut-être été le cas au tout début, au stade plus archaïque, au Caïn, comme dit monsieur.
La force brutale fait l'oppression.
Oui, oui, oui. Mais assez vite, les choses se culturalise, et dans même certaines sociétés très très archaïques, c'est pas le gros costaud qui est le chef, n'est-ce pas, oui, c'est souvent le plus malin, c'est... Ouais.
Ce que je trouve un peu dangereux, parce que pour moi il fait un peu peur, c'est le fait que le cerveau est influencé dès les premiers jours de la naissance, et en particulier pour les homosexuels, ça les déculpabilise, si on peut dire. Alors, enfin, bien sûr que c'est dans le monde actuel ce que les savants disent, et bien sûr que les prières peuvent influencer, je pense, dès avant la naissance et au moment de la naissance, il y a quand même quelque chose de terrible.
Ah oui, c'est bien pourquoi j'ai cité cela en disant que c'était, ça suscitait un très grand problème. Parce que jusqu'à présent, moi j'avais plaidé que l'homosexualité était une déviation qui n'était pas inscrite dans la nature.
Oui, c'est ça. Et alors là, ça semblerait être inscrit dans la nature.
Oui, c'est ce que dit au moins cet auteur. Moi, je pense que ça ne peut concerner qu'une catégorie. Parce qu'il y a trop d'homosexuels qui ont été détournés à un âge nettement ultérieur, etc. Mais il y a peut-être une catégorie de ce type-là, ce qui doit, me semble-t-il, exciter notre compassion davantage, mais sans nous faire renoncer à ce qui est trop clair dans l'Écriture. Cette déviation est comme une infirmité tragique, mais à laquelle il n'est pas permis cependant de céder.
Ce que vous avez dit, ça, est-ce qu'on pourrait dire, mettons, dans un groupe donné, si, je parle même d'un groupe chrétien, en admettant qu'il y ait une fille ou qui soit plus, pas plus maligne, mais dans un sens que les garçons, alors ça veut dire que, normalement, elle pourrait prendre autorité.
Oui, oui. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas du tout essayé de voir si ces faits observables ont un caractère normatif. Nous avons expliqué sociologiquement que puisqu'il y a cette différenciation, il est fatal que dans les sociétés humaines, les mâles aient presque monopolisé le pouvoir. Oui, bon. Mais est-ce que c'est une chose bonne? Est-ce qu'une chose mauvaise? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui... apparaît dans cet état de fait ou pas, ça, non, je n'ai rien dit, et je crois que ça mérite longue discussion, que de ce qui est, on peut difficilement tirer ce qui doit être. On peut peut-être le tirer dans une certaine mesure, si ce qui est par la volonté de Dieu. Et là, c'est là que ça devient délicat, mais pour l'instant, en tout cas, ce sera, à mon avis, l'objet de nos débats ultérieurs. Moi, je ne me suis pas déclaré sur un tel point. Et je crois qu'il est bon de rappeler toujours que les différenciations catégorielles, comme celles que nous avons évoquées, ne valent pas pour deux ou trois individus ou un nombre petit d'individus, qu'à ce moment-là, elles peuvent très bien être renversées. Et dans quelle mesure, alors, ce qu'on observe comme loi catégorielle vaut quand il y a quelques individus?
Et j'aimerais demander une autre question, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous avez dit. Mais c'est à propos du cycle de l'homme et de la femme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quand on fait le cercle et puis le...
Oui. Oui, alors ce sont les symboles internationaux maintenant accepté, mais j'avoue que je n'ai jamais lu d'explication de la manière dont ils ont été formés. Et ici, ils sont ici, comme ça chacun peut les voir. C'est la revue du GBU anglais de laquelle est tiré l'article traduit dans Ictus de June Osborne. Alors, c'est l'illustration qui avait été choisie, une pomme, comme par hasard, avec les deux signes. Ça, c'est le signe masculin, un cercle avec une flèche qui part légèrement sur la droite, et le signe féminin, le cercle, avec un plus, un signe plus, mis en dessous.
Je crois que ce sont les signes des planètes, Mars et Vénus.
Alors, c'est peut-être le cas, effectivement.
Oui, il y a certainement des liens profonds. On est là dans le domaine de la symbolique, je pense qu'il y a des liens profonds. Le signe de la flèche qui est associé à l'homme depuis fort longtemps, on le retrouve dans Centaure, dans Héraclès, dans toutes sortes de choses. Je pense que là, il y a des choses qui sont indiquées. Quant au signe de la croix, je ne sais pas s'il faut l'associer au signe de la blessure, mais il y a des liens qui ont été faits avec le sexe féminin depuis fort longtemps. Là, évidemment, c'est extrêmement schématique, alors il nous manquerait en quelque sorte les images intermédiaires pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, est-ce qu'il faut voir dans le cercle une idée de la perfection initiale et d'avant la chute de l'image de Dieu? Je ne sais pas, mais dans le domaine de la symbolique, on a des choses qui sont tellement, viennent de tellement loin, qu'on ne sait plus proprement repérer leur origine.
Oui.
Mais je voulais simplement faire observer qu'on a quand même déjà parlé négativement de cette espèce de phallocratie. On n'a pas employé le mot, mais on a parlé un petit peu, chaque fois qu'on a parlé de l'homme, on a parlé négativement de cette différenciation en termes de pouvoir. Je voudrais faire observer qu'elle peut être aussi comprise comme un élément dynamique dans la société, c'est ainsi qu'elle m'apparaît, que ces deux rôles m'apparaissent. Dans le fait que l'homme est extrémiste, tente-t-il davantage d'aventures et que quand tout le monde en profite, ou en pâtit aussi, mais on profite également, et que s'il n'y avait que ces éléments masculins, la société serait très rapidement un chaos indescriptible. Mais il y a cet équilibre féminin qui vient tempérer et ramener l'homme à dessus.
Et je pense que ça serait surtout en rapport avec la tendance à vouloir multiplier les expériences de stimulation forte, comme dit le paragraphe que j'ai lié. Cet esprit d'aventure pourrait se relier à cette caractéristique-là. Oui.
Et je voudrais savoir comment on réussit à faire une expérience en faisant l'abstraction de la vécu Oui. Je sais, par exemple, en physiologie, on sait très bien que l'espèce humaine est très spéciale et que le psychique peut influencer tout le cycle hormonal. Donc ça me semble bizarre de... Enfin, comment ils ont pu faire ces expériences?
Oui, ils ont concocté des tests. Je crois qu'ils sont hautement conscient des problèmes que vous évoquez. C'est l'avantage du livre Le Fait Féminin, c'est qu'il s'agit là de savants des deux sexes, certaines étant assez féministes, qui donc ont été contraintes d'admettre ce minimum par une expérimentation soumise à la critique la plus vigilante. Alors moi, je n'ai pas dans mes notes pris tout ce qui concerne ces tests, mais je crois qu'ils ont tenu compte, pour essayer d'éliminer disons, toutes les déformations possibles, et l'action en retour du conditionnement psychique de la famille et de la société, je crois qu'ils ont fait autant qu'on peut faire, en tout cas.